Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet presse, blog, forum, qu'avons-nous à apprendre sur le sexe? La question du sexe nous déroute principalement parce que nous manquons de données solides sur le sujet. Les gens mentent à leurs amis, à leurs amants, à leurs médecins, aux sondages et à eux-mêmes, nous dit Seth Stephens Davidovich, le chercheur qui a publié une tribune dans le New York Times et qui tente de dessiner les principales questions que les Américains se posent sur le sexe à partir de leurs recherches Google. Des questions qui sont en fait avant tout des angoisses disproportionnées et infondée, selon les mots du chercheur, elle concerne principalement la taille du pénis chez les hommes et l'épilation ou les odeurs du vagin chez la femme. Prisonniers qu'ils sont, que nous sommes aussi sans doute, des images conventionnelles servies surtout l'été dans les magazines, il y a de quoi en effet se poser la question du rôle de la presse, des médias en général aujourd'hui, dans la représentation qu'elle donne du sexe à ses lecteurs, de la photo ultra esthétisante et du titre provoque, du quiz qui permet de vérifier notre culture générale, du tabou que l'on veut briser tous les étés, du dossier en 69 questions, qu'en reste-t-il dans nos esprits, dans notre imaginaire, dans notre questionnement sur le sexe? Google, toujours lui, à la question « Comment faire l'amour ?» a 24 millions de réponses à nous proposer, selon l'enquête de Catherine Malaval dans Libération. Alors comment, entre toutes ces sources journalistiques ou non, des forums, des tutoriaux, des blogs, des courriers du cœur ou du sexe en ligne, nous pouvons nous réapproprier cette question? Presse, blog, forum, qu'avons-nous encore à apprendre sur le sexe? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Desfontaines. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au magazine L'Obs. C'est vous qui avez signé l'article d'ouverture du dossier intitulé « Le sexe féminin, histoire d'un tabou ». C'est donc dans L'Obs sorti en kiosque aujourd'hui et dont notre émission est partenaire. Bienvenue à vous. Avec vous pour discuter, Diane Saint-Réquier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maintenant animatrice de prévention en milieu scolaire. Vous avez également ouvert un blog, Sexy Souci, où vous répondez à toutes les questions que l'on peut se poser sur le sexe. Vous allez nous dire lesquelles et comment vous y répondez dans un instant. Notre troisième invité, c'est Alain Héril. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychanalyste et sexothérapeute et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, Dans la tête des hommes, chez Payot. Merci à tous d'être autour de cette table pour répondre à cette question. Alors, le sexe, c'est un sujet qui se répand dans l'ensemble des magazines et des journaux de l'été. Tous les ans, il est question de briser des tabous, de plonger dans l'intimité. Alors, Cécile Desfontaines, vous, quelles questions est-ce que vous vous êtes posée au sein de votre équipe au magazine L'Obs? De quel questionnement sur le sexe est né ce dossier sur la revanche du vagin, tel que c'est si on en suit le titre du magazine?
Oui, l'idée n'était pas de faire un dossier spécial sexe comme on peut en trouver dans les magazines tous les étés. C'est plutôt parti d'un constat sur les réseaux sociaux que j'ai fait. Alors, je suis pas mal de journaux et de personnes qui travaillent sur les causes féministes, par exemple, sur Facebook, je me rendais compte que beaucoup de petits groupes féministes ou d'artistes représentaient de plus en plus souvent le vagin, ou pour être plus exact, la vulve, donc le sexe des femmes, alors qu'on le voyait finalement très peu, on n'a pas l'habitude de le voir représenté. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait des projets qui s'appellent Vagina Guérilla, par exemple à Paris, un petit collectif qui décide de représenter le sexe féminin à la manière de la représentation du sexe masculin, c'est-à-dire que tout le monde dessine assez facilement un petit sexe en rigolant, et alors qu'il n'y a pas l'équivalent féminin, ils se sont interrogés, ils sont partis de là sur un monopopotage. Donc voilà, voyant toutes ces petites initiatives, on s'est dit, mais il y a une sorte de sortie du vagin et de la vulve de sa cachette, et petit à petit, on s'est rendu compte que ce serait certainement intéressant de remettre ça en perspective avec l'histoire de l'art, l'histoire tout court, raconter un peu le passé et aussi les interrogations des femmes actuellement sur leur sexe.
Diane Saint-Réquier, est-ce que vous pensez que il y a des sujets oubliés sur le sexe aujourd'hui et est-ce qu'on traite toujours les mêmes? Est-ce que les journaux que vous voyez chaque été font au contraire preuve d'originalité? Quel est votre regard là-dessus?
Je ne sais pas si on traite toujours les mêmes sujets. Je ne sais pas s'il y a non plus un milliard de sujets. Je veux dire, à un moment, il y a une limite aussi dans les sujets dont on parle. Quand on parle de sexualité, on parle de sexualité. Et certes, elles sont extrêmement multiples. Je pense que ce qui pêche éventuellement dans les fameux marronniers spécial sexe l'été, c'est l'angle, en fait. Ce dont vous parliez tout à l'heure, cet éternel tabou qu'on n'en finit pas de briser, on le disait tout à l'heure, en dehors du studio, ça concerne plus souvent la sexualité féminine, qui serait une espèce de chose mystérieuse, un continent
qu'on présente
noir,
comme une nouveauté alors qu'on parle beaucoup plus de sexualité féminine que masculine dans la presse. Dans
voilà, et en fait, en disant toujours qu'on va briser le tabou, je me demande dans quelle mesure on n'est pas en train de perpétuer le fait que ce soit un tabou et d'en faire un espèce d'objet mi-mystérieux, mi-sacralisé. Donc je pense pas que ce soit le problème des sujets, je pense que c'est plutôt une question d'angle. Là, du coup, dans l'Obs, ce qui était intéressant, effectivement, c'était de donner un angle historique, histoire de l'art. Donc ça, c'est quand même relativement original. C'est pas quelque chose qu'on lit tous les jours. Donc ça, c'était chouette. Je pense que c'est ça. C'est plutôt les angles sous lesquels on approche les mêmes sujets, évidemment. Toujours les mêmes sujets, bien sûr.
Alain Héril, ce sont toujours les mêmes angles, vous, que vous lisez dans les journaux, journaux auxquels vous participez parfois aussi, dans Psychologie Magazine notamment, vous intervenez ?
Oui, j'ai beaucoup participé effectivement à ces journaux de l'été autour de la sexualité et je trouve depuis 25 ans que je participe à ces journaux qu'on est quasiment toujours sur les mêmes types de sujets et avec à mon avis l'idée que ce qui est tabou finalement c'est la question du corps tout simplement, c'est-à-dire qu'on est dans une culture où le corps n'est pas centralisé, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de réfléchir sur le sexe. Et dès qu'il y a la question du corps qui se met en place, et j'ai pas lu l'Obs, mais je pense que c'est ça qui est en jeu, la question du corps, c'est aussi la question des émotions, et je pense qu'il y a... On voudrait tellement que la sexualité ne soit pas un registre émotionnel, qu'il y ait un mode d'emploi sur avoir une bonne sexualité, avoir une sexualité épanouie. Et on tourne autour de ça. Et je ne sais pas comment on peut faire pour mettre en place des articles à l'intérieur desquels l'émotion de la sexualité soit effectivement anglée de façon à ce qu'on puisse réellement en parler. Je pense que c'est ça qui est en jeu. Et aussi avec quelque chose qui est très intéressant, c'est que il y a beaucoup de mal dans ces articles-là et dans la sexualité en général à pouvoir comprendre qu'il y a une différence entre le sexe et le sentiment. Et on voudrait tellement que les deux concordent ensemble. Et on tourne autour de ça, on tourne autour de cette notion-là, parce que pour moi, sexualité et sentiment sont deux choses radicalement différentes.
Vous parliez, Alain Héril, d'un tabou autour du corps. Il y a aussi un tabou autour des mots, Cécile Desfontaines, ne serait-ce que dans le titre.
Oui, certainement, puisque nous, en couverture du magazine, on parle de sexe féminin. En ouverture du dossier, on parle de vagin. Et dans l'article, on parle de vulve. On va vers un mot de plus en plus cru, en fait. Et on se rend compte, à la fois en discutant dans une rédaction et en parlant avec des femmes, qu'il y a des mots qui heurtent leurs oreilles. Dès qu'on dit le mot vulve, elles font une petite moue dégoûté, alors que ça n'est jamais qu'une partie de leur anatomie, que c'est un mot qui désigne quelque chose de précis, l'organe externe de la femme qui est effectivement rarement décrit et que les femmes répugnent parfois même à regarder. Beaucoup de sexothérapeutes diront, comme M. Héril, que les femmes ne regardent pas, qu'il faut parfois, le gynéco parfois propose aux femmes de prendre un petit miroir et d'aller voir à quoi ça ressemble. Beaucoup de femmes, moi, m'ont pu me raconter que souvent, quand elles ont regardé leur sexe, c'est souvent à l'adolescence, qu'elles ont une curiosité, elles le font dans leur coin sans en parler à personne. Mais souvent, le premier sentiment, c'est de dire « mais est-ce que je suis normale ?» parce qu'il n'y a pas d'image. Alors effectivement, on parle beaucoup du sexe, mais on en parle, en tout cas les jeunes, on parle autour du porno. Et je pense que c'est un sujet important. C'est un média, entre guillemets, aussi, qui conditionne beaucoup le rapport au sexe et à son corps.
Diane Saint-Réquier, votre blog Sexy Souci, vous l'avez ouvert en janvier 2015. C'est un blog dans lequel vous et quatre autres contributrices répondez à des questions que les internautes vous posent selon quatre catégories: sexualité, santé, identité. Il y a aussi une catégorie inclassable. Là, vous avez dû fermer la boîte à questions en juin dernier parce que vous aviez beaucoup trop de questions à traiter. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'il y a quand même des limites aux questions et aux sujets qu'on se pose sur le sexe. Mais là, on voit bien aussi que les questions peuvent être parfois illimitées. Vous dites passer plusieurs heures à répondre à une question. Quelles sont vos sources pour trouver les réponses? Par quel biais est-ce que vous passez pour informer, vous, sur le sexe?
Ça dépend des questions. Alors oui, les sujets, ils sont illimités plus on va dans le détaillé, comme c'est le cas des questions qu'on me pose. Je veux dire, il y a des questions qu'on me pose qui sont extrêmement longues et qui du coup sont éminemment personnelles, donc forcément uniques en réalité, même si ce qui entre en jeu, la relation à l'autre, les parties du corps dont il est question, c'était de ça dont je parlais qui est effectivement limité, mais après avec une infinie variabilité qui fait que chaque personne a sa sexualité individuelle et unique. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma réponse.
Comment est-ce que vous vous y prenez pour répondre à ces questions? Par quel biais vous passez? Comment vous vous informez vous-même pour informer, pour transmettre cette information aux internautes qui vous posent des questions?
Les sources d'information, elles sont multiples. Alors, ça peut être des sources, donc des sites gouvernementaux, médicaux. Mon ancienne carrière de journaliste m'a donné un petit peu de méthode, on va dire, pour faire de la recherche d'information, les recroiser, vérifier qu'une source est fiable. Donc ça va être pour tout ce qui est du factuel, ce qui n'est pas nécessairement la majorité des questions, mais des fois ça infuse un petit peu. Mais il y a beaucoup de questions où en fait ça me prend du temps parce qu'il faut que j'essaye de rentrer un peu dans un mode empathique et de me figurer quelle est la question qui est posée, et essayer de décortiquer un petit peu les mots qu'emploie la personne. Donc du coup c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps de mûrir ça.
Alain Héril, tout à l'heure, vous faisiez nettement le distinguo entre sexualité et sentiment, et vous disiez qu'on voulait, en traitant la question de la sexualité, y insuffler tout le temps du sentiment. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, le questionnement qu'on devrait se poser, qu'on devrait poser sur la table, que ce soit dans n'importe quel média, dans la presse, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, ce serait justement cette question-là? Est-ce que c'est une question qui n'a pas été traitée?
Alors, c'est une question qui a déjà été traitée, mais peut-être pas assez. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que pour essayer de comprendre ce qu'est la sexualité humaine, il faut vraiment faire ce distinguo, parce que sinon, si on va demander à la sexualité de répondre à la question de l'amour, par exemple, on va se fourvoyer et ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Donc je pense qu'il faut différencier les deux, mais je ne dis pas que les deux ne peuvent pas s'associer, bien entendu. Mais il y a nécessité de pouvoir les différencier. Mais je reviens à parce qu'il y a toute la question des émotions, et puis la sexualité, je parlais du corps, mais la sexualité, c'est pas que l'acte sexuel. La sexualité, c'est les fantasmes, c'est le désir, c'est les projections, c'est la culture dans laquelle on est, c'est politique, et en même temps, on est quatre autour de cette table, et nous quatre, nous avons une sexualité. Donc ça veut dire que dès qu'on parle de sexualité, de la sexualité des autres, on est engagé aussi dans sa propre, par rapport à sa propre sexualité, par rapport à ses fantasmes, par rapport à qui nous sommes. Donc c'est un sujet qui ne peut pas être neutre. Il y a impossibilité d'une neutralité sur la sexualité, parce qu'on est engagé de fait. Et moi, je le sais très bien en tant que thérapeute, c'est-à-dire que quand j'ai des patients qui viennent pour une problématique sexuelle, ils s'adressent à quelqu'un qui est sexué, qui est moi en l'occurrence. Donc c'est, voilà, vous parliez d'empathie, par exemple. C'est vrai que l'empathie, elle se fait aussi par rapport à son propre vécu et sa propre histoire. Donc il y a tout ça qui est en jeu. C'est pour ça que le sujet est éminemment passionnant. Et juste une petite chose par rapport au corps et ce que vous disiez, c'est vrai quand même par rapport aux femmes il est évident pour moi que la sexualité dans sa dimension, je dirais presque énergétique, elle est plus féminine que masculine, contrairement à ce que disait Freud. Et parce que le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir, ça s'appelle le clitoris. Et jusqu'à preuve du contraire, nous les hommes, on n'en a pas. Et je vous rappelle quand même que la véritable anatomie du clitoris a été découverte en 1997 par Hélène O'Connell. Donc c'est-à-dire qu'on est sur des terrains qui sont quand même des terrains
assez récents,
effectivement. Et ça, faut le prendre en compte.
Alors vous parliez à juste titre, Alain Héril, de cette difficulté à rester neutre et à ne pas s'engager lorsqu'on parle de sexe, lorsqu'on répond à des questions ou qu'on écrit des articles sur la question. Ce qu'on observe quand on va sur des blogs, sur des forums par exemple, c'est ce récit à la première personne, c'est cet engagement de soi, même anonyme, même sans visage, mais cet engagement de soi-même. Et même dans la presse, on pourrait dire l'émergence de récits aussi à la première personne. Sur le sexe, est-ce que le renouveau du journalisme qui pose la question du sexe doit se passer par le récit, Cécile Desfontaines?
Alors quand on travaille sur ces sujets, forcément on va voir les premiers concernés, on les fait parler, donc forcément c'est toujours un récit, c'est toujours du témoignage.
Comment vous choisissez par exemple les interlocuteurs que vous allez voir? Est-ce que ce sont des gens plus proches de vous que d'habitude?
Non, ça peut être des gens que je connais, parce que c'est parfois plus simple simplement de parler des gens qu'on connaît sur des sujets un peu intimes. Moi je peux aussi faire des appels à témoins sur Twitter par exemple, avec des gens qui vont avoir envie d'en parler.
Et vous recevez plus de réponses que d'habitude sur ces sujets-là?
Pas plus. C'est tellement. Enfin, y a des gens qui n'ont aucun souci pour parler de ça, d'autres qui vont être outrés et n'ont aucune envie de qu'on aborde même ces sujets-là. Pour moi, c'est un sujet un peu comme un autre, en fait, dans la recherche de témoignages.
Diane Saint-Riquier, sur cette question du jeu, de cet engagement-là, vous, quand vous répondez à des internautes qui vous posent des questions sur leur sexualité, sur des impasses amoureuses ou sexuelles, est-ce que vous avez du mal à ne pas vous engager plus que ça? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous partez de votre expérience personnelle?
C'est rigolo parce que on en parlait aussi tout à l'heure et je disais que c'est vrai que moi je considérais pas que c'était un blog parce qu'en fait je raconte pas ma vie, le but c'est vraiment
vous restez très extérieur.
Oui, mais en fait, dans une certaine mesure, enfin, de toute façon, ça c'est aussi en journalisme qu'on l'apprend. Quand on parle, c'est toujours situé, quoi. Et alors peut-être que c'est encore plus prégnant quand on parle de sexualité, parce que c'est quelque chose qui touche à l'intime et à un domaine émotionnel très fort et tout ça. Mais en fait, quand on parle, c'est toujours situé. Et bien sûr qu'en fait, même sans explicitement parler de moi, ma façon de répondre, mon approche, elle parle de moi, elle parle de qui je suis, elle parle de mon expérience personnelle peut-être, en filigrane, et aussi de l'expérience de tous les gens avec qui j'ai pu discuter, etc., et qui nourrit maintenant les réponses que je fais aux gens. Donc, de toute façon, on parle toujours de soi.
Vous dites, Diane Saint-Riquier, que vous n'aimez pas la manière dont la presse féminine s'est emparée du sujet sexe et sexualité. En général, est-ce que le fait que la presse généraliste et plus seulement la presse féminine se soit emparée du sujet depuis des années, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça permet d'avoir un autre débat que celui que vous qualifiez de très hétéronormé que la presse féminine peut imposer à la majorité des gens?
Oui, je pense que la presse généraliste elle peut apporter un regard différent. Après, je voue pas aux gémonies la totalité de la presse féminine, ni d'ailleurs la totalité de la presse masculine, parce que je parlais de presse genrée, et je pense qu'il y a un traitement assez spécifique, en fait, de ces thématiques-là, on va dire de tout ce qui est vie affective et sexuelle, dans la presse genrée, qui est en partie liée à son modèle économique, mais pas que, et qui est souvent problématique, mais pas tout le temps. Il y a des perles, il y a des choses plutôt chouettes qui sont faites dans ces médias-là. Oui, la presse généraliste, elle peut sans doute apporter un éclairage différent, mais je pense quand même que la vraie, je vais pas dire c'est la révolution, c'est Internet, parce que ça fait un petit peu, on est en 2002, mais la vraie révolution, c'est ça, c'est les gens qui parlent, c'est des comptes Twitter où les gens racontent leurs expériences, c'est les blogs, ça c'est vraiment une source hyper riche pour la presse et visibiliser cette parole c'est vraiment extrêmement intéressant et je pense que ça c'est une source de renouveau énorme dans la transmission d'informations en bien et en moins bien parce que les conseils qu'on se donne entre pairs sur Doctissimo sont pas toujours pertinents ou exacts mais c'est quand même une vraie manne.
Alain Héril, sur cette question, d'ailleurs, vous faites partie des experts de Doctissimo.
Oui, tout à fait.
Ce forum sur lequel plein d'internautes peuvent partager des expériences, poser des questions sur leur santé sexuelle.
Complètement. Et en même temps, je suis parfois un peu mal à l'aise par rapport à ce genre de situation, parce que justement, vous parlez de santé sexuelle et qu'on on retrouve avec cette dimension-là. Je ne sais pas si la sexualité fait partie de la santé, si ça ne peut se réduire qu'à ça. Je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Ça raconte quelque chose sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, au-delà de notre santé, au-delà de notre équilibre. Parce que je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui nous met toujours en déséquilibre. Donc, mais en même temps, par rapport à ce qui se dit là, ce que je trouve très intéressant, c'est que on se rend compte que la sexualité, elle a à voir avec le jeu, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sexualité globale et normative, il y a maintenant des sexualités du sujet. Et que ces sexualités-là, il faut les regarder avec leur spécificité, leur singularité. Et ça rend les choses d'autant plus complexes, bien entendu, et d'autant plus intéressantes. Et en même temps, il y a quelque chose qui, en 25 ans de pratique, vous savez, la question que j'entends le plus souvent dans les consultations de sexothérapie, c'est « suis-je normal ?» C'est la question qui revient le plus souvent, chez les hommes comme chez les femmes.
Et d'où naissent ces questions sur le fait d'être normal ou pas.
Mais parce qu'il y a l'idée, sans aucun doute inconsciente, mais pas qu'inconsciente, il y a l'idée qu'il y a une normalité de la sexualité, qu'il y a un fonctionnement, une manière d'être qui serait normale. Et c'est vrai que on est dans un cadre qui est très hétéronormé, effectivement. Et même si on voit le scénario de la relation sexuelle, une relation sexuelle n'a de sens que s'il y a pénétration, par exemple. Et donc, moi, je l'entends régulièrement dans mon cabinet. Donc, Donc c'est toutes ces questions-là aussi que ça pose, parce que, et ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question du désir, la question de nos désirs par rapport à la sexualité, et nos désirs, à mon avis, ne sont pas normés, ils viennent toujours interroger la normalité, et c'est là où ça vient interroger l'espace social dans lequel on est, et l'espace politique également. Donc la sexualité est une interrogation constante sur qui nous sommes et sur comment nous vivons les uns avec les autres.
Vos patients, justement, à partir de quoi, par rapport à quoi ils se définissent, normal ou pas ? Alors, par rapport à quel modèle ?
Mes patients viennent me voir au début parce qu'ils ont des symptômes, parce qu'ils ont un dysfonctionnement sexuel, comme on dit. Et j'ose espérer qu'avec le cours de la thérapie, le dysfonctionnement commence à disparaître. Mais une fois que le dysfonctionnement disparaît, il reste la question, c'est j'ai ces fantasmes-là, j'ai ce désir-là, je suis continuellement avec des désirs extra-conjugaux, je suis hétérosexuel, mais j'ai des fantasmes homosexuels. C'est-à-dire, continuellement, les fantasmes amènent les personnes sur des terrains qui sont des terrains marginaux pour eux. Et donc, ils sont toujours très, très, très mal à l'aise avec ça. Et c'est là où la sexualité, là encore, est intéressante, parce qu'elle nous interroge là où parfois on n'a pas envie qu'elle vienne nous interroger. Et c'est ça qui est en jeu.
Je voudrais entendre Diane Saint-Réquier sur la question de la santé, parce que vous avez quand même une catégorie de questions qui s'appelle santé. Oui. Et d'autre part, quand on va voir sur des forums, surtout sur des forums d'ailleurs, Doctissimo, mais des forums de santé, il y a vraiment un large chapitre sexualité. Et on s'aperçoit aussi que les gens se posent surtout des questions par rapport à d'éventuelles infections, maladies. Quel avis vous avez sur la question, justement, Diane Saint-Réquier?
Oui. Alors déjà, juste en fait, moi quand j'entends santé, bon, je l'ai.
Il ne s'agit pas que de santé.
C'est un terme que j'ai utilisé au pluriel, s'agissant des santé dont il s'agit. C'est une acception assez large qui va se rapprocher un peu de l'acception que peut avoir par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Et donc la santé, elle est élargie pas strictement à. Je vais donner un exemple lambda, mais j'en sais rien. Soigner une verrue sur le pénis. C'est pas simplement ça. La santé, la santé dans la sexualité, c'est au sens de, on va dire, bien-être, de manière un petit peu plus large. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que moi aussi, c'est ce que je retrouve le plus. Enfin, c'est un truc qui est très très prégnant dans les questions que je reçois, c'est suis-je normale ? Mais que du coup, que ce soit par rapport au corps, je sais pas, la taille de mon sexe, de mes seins, des lèvres, de ma vulve, ou par rapport à ses désirs, ou par rapport à ses comportements, ou par rapport à ses fantasmes, et c'est vraiment c'est une des questions qui, sous une forme ou une autre, revient le plus souvent. Donc ça, c'est vraiment très très fort, très très présent, ce besoin de se dire en fait qu'on n'est pas bizarre, quoi. Qu'on colle à une norme, qu'on est dans une sexualité, qu'on n'est pas tout seul à avoir cette apparence ou avoir cette envie, avoir ce comportement sexuel.
Et suis-je normale par rapport à l'autre, à mon partenaire sexuel ? Ça, c'est une question qui revient dans un des articles de vos collègues, Cécile Desfontaines, sur des témoignages de plusieurs femmes qui parlent de la découverte et de la connaissance de leur sexe et qui en viennent très vite à l'aspect justement normatif concernant notamment l'épilation ou la présentation de leur sexe à leur partenaire.
Oui, moi j'ai envie de dire que l'aspect normatif, je pense que effectivement le porno apporte une nouvelle norme, en tout cas pour ce qui est de l'épilation, on sait que maintenant une jeune femme de moins de 25 ans sur deux s'épile intégralement, ce qui n'existe pas chez les femmes plus âgées, et ça c'est typiquement les codes du porno. En gros, comme il n'y a pas de représentation du sexe féminin dans les manuels scolaires et dans la vie courante, puisque personne ne s'exhibe a priori, le seul endroit où les gens voient des sexes, c'est quand même dans le porno. Et donc, on sait que ça a des conséquences, puisque des jeunes femmes vont se faire opérer des petites lèvres dont vous parliez, parce qu'elles estiment que leur sexe n'a pas un aspect normal. Mais un sexologue me disait, mais comment elles savent que leur sexe n'a pas un aspect normal ? Une femme, a priori, ne voit pas le sexe de sa maman, de ses sœurs, de ses copines. Elle voit éventuellement celui de son propre enfant, de sa petite fille, mais qui ne ressemble pas à un sexe d'adulte. Donc, en gros, elle voit les sexes qu'on voit dans le porno. Donc cette interrogation-là, à mon avis, vient beaucoup de cette nouvelle norme qui est très très importante, puisqu'il y a, je crois que j'ai lu qu'il y avait 80 milliards de vues sur YouPorn.
Ouais, c'est ça. Diane Sarriquet, vous réagissiez aux propos avec votre visage aux propos de Cécile Desfontaines.
Oui, alors quelques petits trucs par rapport à ce que vous avez dit. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord. Bah, par exemple, la norme de l'épilation, en fait, ouais. C'est sûr que ça a été une contrainte. En fait, c'était une contrainte technique de mieux voir ce qui se passait au niveau de la vulve pour les prises de vue, donc vraiment extrêmement pratico-pratique, qui a vraiment généralisé l'épilation. Donc, je pense que ça, effectivement, on peut y voir un lien avec ça. Et du coup, indirectement, ça a aussi rendu plus visible le sexe. Donc il y a ça. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas pointer le porno de manière trop insistante. En tout cas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un média. Mm-hmm. Et c'est un média parmi d'autres. Et c'est un média qui, finalement, reproduit aussi des normes qu'on retrouve dans plein d'autres médias, y compris dans des films pas pornographiques, y compris dans les représentations médiatiques, dans la presse genrée ou autre. Donc du coup, je pense qu'en fait, c'est un médium parmi d'autres qui, effectivement, figure le sexe. Et par ailleurs, je voulais quand même aussi préciser qu'il y a un autre moyen qu'ont les femmes de voir des vulves éventuellement, c'est quand elles ont des pratiques avec d'autres femmes.
Enfin, oui, bien sûr. Oui.
Ça existe.
Alain Héril, sur cette question.
Oui, moi effectivement, je suis tout à fait dans votre sens, c'est-à-dire que je suis un petit peu non pas presque énervé par rapport au porno sur le auquel on attribue beaucoup de raisons qui laissent entendre que la sexualité ne va pas bien à cause du porno. Je pense que le porno, il y aura peut-être une émission à faire là-dessus. Je pense que le porno est une vertu éducative qu'il faut pas nier. Et quand on parle du porno et des adolescents, je suis très étonné qu'à chaque fois on évacue quelque chose, c'est que les adolescents ils regardent du porno pour se masturber. Donc la question c'est pas tellement le porno. La question bien souvent c'est le tabou qu'ont les parents par rapport à la masturbation de leurs adolescents. Et ça aussi c'est quelque chose qui me paraît important. Mais ce qui est intéressant dans le porno, d'un point de vue le plus objectif possible, c'est qu'il y a des pratiques sexuelles qui viennent du porno qui maintenant sont complètement normalisées. Ne serait-ce que la fellation, le cunnilingus ou autre, il faut quand même se rappeler qu'il y a un siècle et demi, la fellation ne se faisait pas avec sa compagne, ça se faisait avec une prostituée. Et que la sodomie maintenant est quelque chose dont on parle de façon tout à fait simple, mais que ça n'existait pas non plus il y a un siècle ou un siècle et demi. Donc il y a aussi, il faut voir aussi comment le porno participe aussi à notre connaissance de la sexualité et à nos pratiques sexuelles également. Donc il y a tout ça qui est en jeu, mais néanmoins, le porno reste aussi un endroit très normé, très hétéronormé également. Bien sûr, je ne le nie pas. Mais vous voyez, on tourne là dans ce dont on parle, autour du fait de c'est quoi la norme, c'est quoi la règle, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et peut-être que les journaux qui sortent en été cherchent à répondre à ça. Il y a peut-être cette dimension-là. La seule chose, c'est que si vous n'êtes pas dans la norme, c'est une énorme culpabilité qui se met en place.
Alors, on va continuer sur cette question. Vous avez dit plein de choses pendant cette première partie. Vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé de normes, vous avez parlé de libération de la parole. Et justement, je voudrais, avant d'aller plus loin, vous faire entendre quelques paroles et quelques voix qui peuvent vous intéresser, peut-être aussi vous rappeler des souvenirs.
Allô ? Allô ?
Bonjour, Madame Lady Grégoire ?
Oui, bonjour, Madame.
Bonjour, Madame. Je voulais parler pour faire la différence entre la sexologie, l'érotisme et la pornographie.
Ça n'est pas inutile, c'est bien une bonne idée. Je suis bien d'accord.
Voilà, je me suis mariée à 17 ans. Mon mari était plus âgé que moi, parce qu'il a 7 ans de plus que moi. Évidemment, je ne connaissais rien du tout.
Non, non, c'est normal à 17 ans.
Oui.
Est-ce que lui en connaissait un peu plus long ?
Oui, évidemment, il avait déjà vécu tout ça.
Oui.
Eh bien, bonsoir, Macha Bérange avec vous jusqu'à 2h du matin. Allô.
Allô, bonsoir, Macha.
Bonsoir, quel est votre prénom ?
Eh bien, je m'appelle Sébastien.
Sébastien,
J'ai 17 ans.
Oui.
Et
vous avez 17 ans ?
Oui.
Entre 19h30 et 22h, Love in Fun avec Doc et Tiffoul. Le sexe sans complexe, l'amour avec humour.
En gros, je résume, elle en a après le doc, ouais. Parce qu'elle balance le doc. Enfin, chaque fois qu'un auditeur vient à l'antenne, le doc dit « Ouais, va chez la psy ». Chez le psy.
Mais parce que c'est un vieux frustré.
Voilà, et elle dit
un mal baisé.
Elle dit que tu es un mal baisé.
Qui donne des conseils sexuels.
19h30, 20h30, point G. Point G. Comme Julia sur le Move.
D'amour. D'amour. Point G, l'émission qui appuie là où ça fait du bien et parfois quand ça fait mal, on aime ça.
Oui, Joachim pour Point G comme Julia. J'aime quand ça fait un peu mal. Eh bien moi j'aime quand ça fait mal. Oui. J'aime quand ça fait mal. En tant que garçon, j'aime bien aussi me faire frapper. Allez, bonne soirée.
Le monde est à nous.
Xavier ?
Julia, j'avais une question. Très technique. Est-ce que première fois, ça veut forcément dire missionnaire ?
Alors déjà, sexualité, ça veut pas forcément dire pénétration. Je voudrais vraiment dire au contraire aux jeunes, surtout créer, inventer, explorer. Il n'y a pas du tout de règles. Ce qui est intéressant, c'est d'oser.
Se lâcher, quoi.
Oui, se lâcher, vraiment. Il n'y a que comme ça, à mon avis, qu'on peut explorer à plusieurs.
France Culture, du grain à moudre d'été, Émilie Chaudet.
Presse, blog, forum, qu'avons-nous encore à apprendre sur le sexe ? On essaye de répondre à cette question avec la journaliste Cécile Desfontaines de l'Obs, dont nous sommes partenaires pour cette émission, avec Diane Saint-Réquier du blog Sexy Souci, qui intervient en milieu scolaire sur ces questions, et le sexothérapeute Alain Héril. Alors, montage réalisé par Milena Hellig, on a pu entendre Méni Grégoire sur RTL à la fin des années 60, Macha Béranger sur France Inter, le doc Eddie Foul sur Fun Radio, j'ai vu que ça vous avait fait sourire, Diane Saint-Réquier. Julia Foyce sur le Move, et puis un dernier extrait, donc Le Monde est à nous sur RFI, qui n'est pas une émission sur le sexe mais plutôt sur la jeunesse sur RFI, et qui donc avait consacré un de ses numéros sur la sexualité. Alors on parle de presse, maintenant on va parler de médias en général. On voit que la radio était très présente sur ce terrain du sexe et sur cette notion d'accessibilité, de pédagogie sur la question sexuelle. Maintenant on passe à l'anonymisation des visages aussi, de la personne tout entière, de la voix. Quand on passe sur les blogs et sur les forums, de la radio à Internet, on a plus que les mots. Qu'est-ce que ça dit, Diane Saint-Réquier, de notre rapport à la question du sexe et de notre rapport juste aussi à l'ignorance et à nos carences que l'on peut avoir face à ces questions ? Le fait de passer de la question ouvertement dite à celle juste écrite derrière un pseudonyme, sans vraiment se mouiller.
Ben c'est compliqué de poser des questions. C'est un sujet qui est quand même pas anodin, quoi. On demande pas comment changer un joint de culasse. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une comparaison nulle, mais on est en train de parler de choses qui touchent vraiment à l'intime. Et je pense qu'effectivement, l'anonymat complet que garantit Internet, enfin que peut garantir Internet, c'est un confort qui permet de raconter des choses, parce que enfin quand on appelait, alors peut-être pas à la fin des années 60, mais je pense au Doc Eddie Foul. Alors oui, ça m'a fait sourire parce que je l'écoutais quand j'étais encore plus jeune, et que à l'époque ça me paraissait pas mal, et qu'en fait depuis, ce que j'en ai réentendu me paraît juste affreux et pour le coup hyper normatif et bref, mais ça avait une énorme audience sur ma tranche d'âge, qui était la tranche d'âge des gens qui appelaient aussi. Donc en fait,
quelle influence ça a eu sur votre rapport à la sexualité à cette époque d'écouter ces émissions-là ?
Je pourrais pas vous dire, parce que c'est loin un peu déjà. Et en plus, c'est un sujet sur lequel j'ai tellement travaillé, lu, etc., que du coup, c'est un petit peu compliqué de me souvenir dans quel état d'esprit j'étais. Mais en tout cas, je trouve que le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait une parole qui était pas nécessairement hyper rassurante, et que parfois il y avait des propos qui étaient quand même pas mal anxiogènes. Ça a été le cas aussi. Je sais pas quelle émission c'était, mais il y avait une libre antenne où c'était Coé qui répondait à des questions. Je sais plus sur quelle radio. Et je me souviens d'avoir entendu ce qu'il répondait à une jeune fille. Elle expliquait qu'elle avait très envie d'avoir des rapports sexuels pendant ses règles. Il lui a répondu un truc mais horrible. Enfin, il lui a dit que c'était dégueulasse. Enfin, mais c'était vraiment affreux. Et malheureusement, ce type de discours, on pouvait le trouver avec Doc Eddie Foul. Et du coup, c'était pas nécessairement hyper rassurant et sécurisant, en fait, ce qu'il donnait comme réponse. Alors que c'est un âge où on est... Enfin, peut-être, on le reste peut-être toute sa vie, mais peut-être encore plus à cet âge-là. Bah déjà, notre corps, il change. On ne sait pas vraiment ce qui est en train de se passer. On est quand même en proie à tout un mouvement hormonal un petit peu déstabilisant.
On a besoin de réponses.
On a besoin de réponses rassurantes, je pense, vraiment, à cet âge-là. Et du coup, je pense qu'il faut faire attention quand même aussi à ce qu'on dit. C'est une responsabilité, quoi.
Alain Héril, vous, je voyais plutôt sourire en entendant Macha Béranger. C'est une autre problématique générationnelle.
Vous voulez préciser que j'ai pas le même âge.
je ne dirais pas ça. Mais
non, mais je souriais aussi par rapport à ce que j'entendais de Doc Eddie Fool, puisque j'ai travaillé pendant un an et demi à Fun Radio après. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord par rapport au discours à tenir sur la sexualité, parce que je crois qu'on a besoin de parler de sexualité, on a besoin d'en parler, on a besoin de se dire, mais ça engage tout de suite de façon très intime.
À la radio, à la télé, il n'y a plus vraiment d'émissions consacrées à cette thématique-là de manière régulière et récurrente.
Et c'est bien dommage, parce que personnellement, je trouve que la radio est un excellent média pour parler de sexualité, parce qu'il y a la voix, parce qu'il y a des mots qui peuvent se dire, parce que aussi il y a du temps, me semble-t-il, dans certaines émissions, et qu'il y a besoin de temps aussi pour développer et dire les choses. En tant que psychanalyste, je vais pas vous dire le contraire. Et donc effectivement, ces émissions-là, elles avaient aussi, d'une part, pour but direct ou indirect, que quand on écoutait quelqu'un parler de sa sexualité, on pouvait se dire, bah oui, il a le même problème que moi. On se reconnaissait. Et cette reconnaissance-là, elle est très importante parce qu'elle rassure, effectivement, elle dédramatise également la sexualité. Et puis il y a le fait que pour les ados, il y a besoin effectivement d'avoir une parole rassurante, mais il y a besoin aussi qu'ils sentent qu'en face d'eux, ils ont un adulte qui est heureux dans sa sexualité. Et parce que la sexualité, c'est quand même un monde joyeux, normalement. Qu'ils aient en face, avec tous les registres de la joie, hein, c'est bien entendu, mais c'est important qu'ils aient en face d'eux un adulte qui soit plutôt à l'aise dans ses baskets par rapport à la sexualité, parce que c'est ça aussi qui crée chez les ados quelque chose qui peut être un petit peu difficile à comprendre et à saisir.
Une dernière question à propos justement de ce point, que le fait que je vienne de vous faire entendre toutes ces émissions qui aujourd'hui n'existent quasiment plus, à l'exception de celle d'RFI, mais qui, encore une fois, n'est pas consacrée au sexe. Ce sont des émissions qui se construisent autour de la demande d'auditeurs, de questions précises qui viennent des auditeurs. Le cahier des charges n'était pas forcément très, très précisé à l'avance. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, Cécile Desfontaines, que pour concerner des lecteurs de l'Obs ou d'un autre magazine, d'un autre titre de presse au sexe, on imagine un numéro d'été qui réponde à des questions que les lecteurs vous auraient posées au préalable, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas au lecteur de décider de ce sujet, d'un sujet sexuel, plutôt que de laisser les rédacteurs en chef ou les journalistes imposer cette ligne ?
Pourquoi pas ? C'est vrai que nous, on est dans les journaux généralistes, on est plutôt dans une optique de regard sur la société et non pas de réponse à des...
Oui, parce que vous êtes journaliste société à la base, voilà. C'est ce que j'allais dire.
Pas tellement de réponses à des questions peut-être plus précises ou des interrogations ou des inquiétudes. On n'a pas de page sexologie, contrairement à la presse féminine. Après, ce serait tout à fait envisageable de savoir aussi quelles sont vraiment les interrogations des lecteurs sur ce sujet. Après, je pense qu'ils ne cherchent pas de réponse dans la presse généraliste. Hein. Je pense que clairement, les blogs, les émissions de télé, enfin, de radio, enfin, ce qu'il en reste, c'est peut-être plus simple que d'aller prendre la plume et d'envoyer un mail dans une rédaction. Enfin, c'est plus direct. C'est plus approprié.
Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent concernant la thématique sexuelle dans la presse généraliste, à votre avis ?
Eh bien, comme vous dites assez pertinemment, je pense que ça part plutôt des rédactions, en fait, la proposition de sujet. C'est rarement les lecteurs qui nous disent « j'aimerais bien que vous parliez de ça ». Ils réagissent beaucoup quand on écrit quelque chose. D'ailleurs, sur le thème qu'on a choisi cette semaine, il y a beaucoup de réactions, et beaucoup de réactions offusquées, étonnamment. Mais ils nous demandent, en tout cas à nous, ils ne nous demandent rien sur ces questions.
Alors, on va continuer sur ce chemin de la pédagogie, de la transmission. Il y a cette loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception qui prévoit que les écoliers, les lycéens, les collégiens doivent avoir 3 séances par an d'éducation sexuelle et que depuis 2016, ces séances sont censées mettre l'accès sur l'égalité homme-femme dans les questions des rapports sexuels. Le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a publié un rapport au tout début de cet été qui dit tout simplement que ces séances n'ont quasiment jamais lieu et quand elles ont lieu, elles sont parcellaires, inégales et, selon leurs mots, inadaptées à la réalité des jeunes. Diane Sarecki, vous qui intervenez dans les collèges, lycées pour faire de la prévention, c'est quoi les questions qu'on vous pose de plus, de quoi vous apercevez au niveau des carences que les jeunes aujourd'hui peuvent avoir sur la question du sexe?
C'est difficile à dire parce que je suis amenée à intervenir partout en Île-de-France et il y a des disparités territoriales qui sont importantes et en fait des disparités même à l'intérieur d'un même établissement et même à l'intérieur d'une même classe en fonction de l'expérience de la personne, de son entourage familial, de son contexte socio-culturel, etc. Il y a vraiment des disparités de connaissances qui sont énormes.
Il s'agit plus de répondre à des questions ou de déconstruire des images, des stéréotypes dans les classes que vous fréquentez. C'est les deux ?
Un petit peu de tout. Je suis un couteau suisse du sexe. blague à part, on essaye de... Enfin, pour le coup, sans vouloir dire qu'on est parmi les meilleurs par rapport à ce que dit... Alors, déjà, très clairement, les 3 séances par an, hein, personne ne les a. Ça, soyons très clairs, personne ne les a, personne. Ça arrive que moi, je suis amenée à intervenir sur les classes entrantes en lycée et en CFA. Et du coup, ça fait partie des questions qu'on leur pose. Est-ce que vous avez déjà eu des séances comme ça ou pas ? Bon, très souvent, ils n'en ont pas eu. Ou alors, ils ont eu effectivement une présentation qui est de l'ordre de « Bon, alors les enfants, mettez des préservatifs, sinon vous allez avoir le sida et mourir. » Donc voilà comment on met un préservatif et puis basta, quoi. En gros. Hein. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils en retiennent. Mais nous, on essaye d'être un petit peu dans le débat, de venir interroger leur représentation sur la sexualité. Bien entendu, on est à leur disposition aussi pour répondre à des questions plus factuelles sur les types de contraception qui sont à leur disposition, sur les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Mais ça peut être vraiment beaucoup plus vaste. Et justement, la question de l'égalité femmes-hommes, elle fait partie des questions qui sont prioritaires à nos yeux et qu'on traite extrêmement, extrêmement souvent.
C'est quoi ces représentations dont vous parlez ? Les représentations que vous essayez de déconstruire ?
Les représentations sur la sexualité, ça peut être, par exemple, beaucoup autour des rôles de genre. Les femmes seraient censées se comporter d'une telle manière et ce serait quelque chose d'inné et de biologique presque que d'être par exemple d'associer systématiquement le sentiment amoureux avec la sexualité, d'être incapable d'avoir une sexualité en dehors d'un couple amoureux. Ça, c'est une représentation hyper courante. La représentation comme quoi un homme qui aimerait le plaisir anal serait finalement forcément homosexuel. Ça fait partie des représentations et il y en a encore tout un tas qu'on essaye de travailler avec eux.
Alain Héril, vos patients, eux, ont quel moyenne d'âge à peu près ?
Mes patients, c'est en général, quand ils viennent pour une problématique sexuelle, ce sont des ados jusqu'à la patiente la plus âgée que j'ai eue, elle avait 82 ans. Donc je suis vraiment sur une tranche d'âge très très large et évidemment à chaque fois, les questionnements sont différents et les représentations changent avec l'âge, bien sûr. On n'a pas la même représentation de la sexualité à 60 ans qu'à 17, ça c'est une évidence. Mais il me semble, moi en tout cas, mon rôle en tant que thérapeute, c'est de partir de l'interrogation de la personne que j'ai en face de moi. Donc par rapport à ça, je suis quand même étonné de voir dans le monde avec une soi-disant une ultra représentation de la sexualité, de voir qu'il y a des questionnements qui parfois m'étonnent, c'est-à-dire des jeunes de 16, 17, 18 ans qui me demandent comment on roule une pelle par exemple, alors que 5 minutes avant ils me parlaient d'éjaculation faciale et que leur vraie demande c'est comment on roule une pelle. Donc il y a tout ça qui est en jeu, mais c'est vrai que les représentations que nous avons de la sexualité, elles sont très 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 vastes, très multiples.
Et comment on peut se les réapproprier ? Est-ce qu'on peut se les réapproprier ?
C'est-à-dire que ce qu'on se réapproprie, c'est sa propre sexualité. Et derrière ça, il y a la question du rapport au désir et du rapport au plaisir. Et surtout, du rapport à l'autre, parce qu'en face de soi, on a quelqu'un d'autre aussi qui a du désir et qui a du plaisir. C'est ce lien qui est difficile.
Merci pour ces très jolis derniers mots, Alain Héril. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Cécile Desfontaines, journaliste, auteur de La Revanche du Vagin, article dossier paru dans l'Obs en kiosque depuis aujourd'hui et dont du Grain à Moudre d'été est partenaire. Diane Saint-Réquier, fondatrice du blog Sexy Souci, intervenante en milieu scolaire, et Alain Héril, donc psychanalyste et sexothérapeute. Tout ce que vous voulez savoir pour compléter cette émission, vous pourrez le trouver sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Vous pourrez aussi réécouter, podcaster cette émission. L'équipe du Grain à Moudre d'été, c'est Philippine Lebray, Chloé Leblon, Meryl Moneghetti, Tanguy Omri, Milena Elig à la réalisation, accompagnée ce soir à la prise de son de Dofar Guérine.